Le vicaire des Ardennes, septième partie. Chapitre 16. Nous avons laissé le vicaire plongé dans une profonde mélancolie. Il avait suivi Madame de Raucourt jusque dans la salle à manger du château. Assis à sa table, à côté d'elle, il croyait encore être sous le cèdre du parc. Au moment où Joséphine lui offrait quelque chose, il leva les yeux et vit sur le visage de l'un des domestiques qui servait un sourire dont l'expression sardonique le fit tressaillir. Ce drôle était debout, la serviette sous le bras, placé juste en face du jeune prêtre. Il ne se soutenait que sur un pied, sa tête légèrement courbée suivait la pente du corps. Cette attitude ajoutait encore à l'ironie qu'exprimait son visage. Ses yeux embrassaient également par leur regard perçant et la marquise et son protégé. Ce coup d'œil arrêta l'extase de Joseph et jeta dans son âme une vague inquiétude. Jauniot était un de ces hommes dévorés du désir de se sortir de l'état où le hasard les a placés, qui ont assez philosophé pour secouer le joug de la conscience et se servir de tous les moyens possibles pour parvenir. Enfin, par une faveur spéciale de la nature, il avait des formes et des manières dont la candeur excluait tout soupçon sur ses principes. Il paraissait attaché à Monsieur le marquis de Raucourt, au service de qui il était depuis quelque temps. Mais il ne le servait avec tant de zèle que parce que le crédit que Monsieur de Raucourt avait auprès du pouvoir, depuis la rentrée des Bourbons, lui donnait de l'espoir, et il regardait son maître comme le premier instrument qu'il emploierait pour l'édifice de sa petite fortune. Le vicaire fut bientôt débarrassé de la présence importune de ce domestique, car Madame de Raucourt, lisant dans les yeux du vicaire une sorte d'inquiétude, et voyant qu'il regardait Jauniot à la dérobée, renvoya ce dernier sur le champ. Monsieur Joseph avait naturellement de la compassion pour ceux qui étaient victimes d'une passion. Ainsi, la marquise trouva le rigide vicaire beaucoup plus affectueux qu'elle ne l'espérait. Elle jouit de ce changement comme si c'était un premier pas que le jeune homme fit vers elle. « Mon jeune ami, » dit-elle d'un ton de voix affectueux, « j'espère que, quelque jour, vous me confierez vos peines. »« Hélas, madame, je vous les dirai, si l'amitié pouvait m'offrir des consolations. Mais il n'en est aucune pour mes chagrins. » Et ce serait vous affliger en pure perte que de vous raconter mes aventures. « J'aimerais, répondit la marquise, à participer à votre chagrin, même vainement, et comme vous le dites, en pure perte. Deux malheureux se trouvent plus forts à porter leur infortune lorsqu'ils sont ensemble et que leurs cœurs s'entendent. Ah, madame, votre malheur n'est pas au comble, vous retrouverez votre fils, mais moi. Le fatal « jamais » est gravé sur tous mes souhaits. L'espérance même m'est interdite. « Pauvre enfant !» s'écria la marquise, et d'un air tellement amical qu'il était impossible au vicaire de s'étonner de cette exclamation, qui semblait conquérir, pour celle qui la prononçait, tous les droits de l'amitié. La marquise emmena le vicaire dans le salon. Là, après quelques phrases insignifiantes, Madame de Raucourt se mit à son piano. Elle commença négligemment et de mémoire un morceau d'Haydn. Aux premières notes, le vicaire tressaille. Il s'approche et Joséphine, s'apercevant de l'attention du jeune homme, continue de déployer toute sa sensibilité dans son jeu. Elle se retourne, le vicaire, les yeux humides, immobile, avait l'attitude d'un prophète, et il recueillait religieusement les sons que la marquise lirait de l'harmonieux instrument. « Madame, s'écria-t-il, vous m'avez sans le savoir causé le plus grand plaisir et la plus grande peine. » L'infortunée, en entendant jouer la sonate favorite de sa sœur, crut revoir Mélanie elle-même. Il se laissa aller sur son fauteuil, se cacha le visage dans ses mains, et la marquise accourut à ses côtés. Cette matinée fut pour Madame de Raucourt un des moments les plus délicieux de sa vie. Elle savourait un bonheur pur, sans même que sa conscience le lui reprochât. Lorsque le vicaire se retira, elle prit le prétexte d'aller voir sa nourrice pour pouvoir accompagner le jeune prêtre jusqu'à la grille du château. Lorsque le vicaire se trouva seul, il se mit à réfléchir sur l'affection que Madame de Raucourt lui portait, et rien dans son cœur n'en murmura. Le souvenir de Mélanie ne nuisait aucunement à ce nouveau sentiment qui se glissait dans son âme. Cependant, il résolut de se tenir sur ses gardes et d'aller moins souvent au château. Mais Joséphine avait trop d'adresse, et de cette finesse féminine qui dompte les plus grands obstacles, pour laisser le jeune prêtre au presbytère. À chaque instant, elle faisait naître des prétextes. Marie lui servait singulièrement dans ces conditions. Tantôt Madame de Raucourt se fâchait contre un de ses gens et le renvoyait. Aussitôt Marie consolait l'affligé, lui conseillait d'aller trouver Monsieur Joseph et de l'intéresser à son sort. Le vicaire revenait demander une grâce, obtenue dès qu'il parlait. Tantôt Marie allait instruire le vicaire des besoins d'une famille pauvre, et dans la chaumière, Monsieur Joseph trouvait un ange de bonté qui l'avait précédé. Madame de Raucourt, venue à pied, pour ne pas donner à ses bienfaits l'éclat d'une orgueilleuse philanthropie, avait besoin de la compagnie et du bras de Monsieur Joseph. Toutes ces menées étaient déguisées par trop de bonhomie et d'esprit pour que Monsieur Joseph s'en aperçût. Cependant, il commençait à réfléchir sur les soins empressés dont on l'entourait. Lorsqu'il parlait au bon curé de son embarras, M. Gauss ne savait que répondre. Instruit de l'ardent amour du jeune homme pour Mélanie, il n'ignorait pas que le cœur de M. Joseph ne pouvait plus contenir aucun autre sentiment semblable. Mais d'un autre côté, il eût été enchanté de voir son vicaire lancé dans une passion qui lui fit oublier celle qu'une barrière insurmontable lui défendait d'approcher. Alors, le bon curé se contentait de sourire avec une certaine finesse, et il lâchait deux ou trois proverbes qui enveloppaient sa pensée secrète, et dont Joseph ne pouvait deviner le sens. Le résultat des réflexions du vicaire fut qu'il devait renoncer à aller au château, non qu'il conçût des soupçons sur la nature du sentiment que lui portait Madame de Raucourt, mais parce qu'il croyait commettre un sacrilège envers Mélanie en trouvant quelque plaisir à voir une autre femme, et que, du reste, il manquait en quelque sorte au serment qu'il avait fait de se séparer de toute l'humanité. Cette décision immuable fut exécutée à la rigueur, et les menées les plus adroites de Madame de Raucourt vinrent échouer devant ce décret du jeune prêtre, qui en était revenu à la contemplation de son portrait chéri. Madame de Raucourt fut au désespoir. Son amour, parvenu au comble, ne pouvait supporter une telle privation. Un matin, elle se hasarda à écrire le billet suivant au vicaire. « Il me semble, mon ami, que vous négligez beaucoup Joséphine. Est-ce qu'elle serait encore pour vous, Madame la marquise de Raucourt ? Je crois, à vous dire vrai, avoir assez fait pour conquérir ce beau titre d'ami. Faites à votre tour quelque chose pour moi. Songez que vous me devez bien des consolations. Vous seule pouvez bannir la tristesse qui m'accable. Voici bientôt un mois que vous n'êtes venu me voir. Je vous attends, hélas. Je sens que vous me devenez de plus en plus nécessaire. Enfin, mon jeune ami, je vous souhaite. Ce mot doit vous suffire. » Le malheur voulut que la marquise chargea Jauniot d'aller porter cette lettre à Monsieur Joseph. Lorsque le domestique entra chez Madame de Raucourt, il aperçut sur son visage une expression passionnée dont l'homme le moins observateur aurait deviné la cause. « Jauniot, dit-elle, « ayez bien soin de ne remettre cette lettre qu'à M. Joseph lui-même. S'il n'y est pas, vous la rapporterez. » L'accent, le regard de la marquise disait tout, et ses yeux suivaient le papier entre les mains de Jauniot, comme si cette lettre eût dû décider de sa vie. Aussitôt que Jauniot posséda la lettre, il conçut la pensée de la retenir. Mais, pensait-il en lui-même, si ce billet ne dit rien, il est inutile de l'intercepter. En songeant ainsi, il était dans l'avenue du château. Il marchait lentement lorsqu'un homme l'aborde, et, après avoir lu l'adresse de la lettre, « Tu quoique, Brute. Et toi aussi, Genio. Indulges amori. Tu donnes dans le panneau. Quote moiri pedes. Tu trottes chez le vicaire. Va. Timeo danaos et dona ferentes. Crains les coups de bâton en portant des poulets. » « C'est vous, monsieur le sec ? » dit le valet préoccupé. « Heureusement pour vous. Pouvez-vous ignorer tout ce que le village pense de monsieur Joseph ? Madame de Recours l'aime. Et traxit perosa furorem. Elle a le diable au corps. Il y a quelque chose pour nous. Au portet servirait marito. Il nous faut éclairer le mari, et nous y gagnerons. Funus, un emploi. In circumvallationibus. » Dans les douanes, vel rario, ou dans les contributions. Vous pensez donc que cette lettre est un billet? Hein? Et comment s'en assurer? Cela vous embarrasse, dit le curieux maître d'école qui ne courait aucun danger dans cette affaire. Ego sum alpha et omega. Je suis unique pour ces expéditions-là. Allez, notre fortune est faite, et nous allons... « Vertere materiam, débrouillez la fusée. Venez chez moi, j'ai encore une bouteille de vin. C'est tout ce qui me reste de ce que le curé m'a donné. » Jonio suivit le maître d'école, qui fit bouillir de l'eau, et suspendant la lettre au-dessus de la vapeur, il rendit le pain à cacheter humide. Il décacheta le billet, sans endommager l'empreinte du cachet, et, lisant le contenu à haute voix, il fit tressaillir Jonio de joie et d'espérance. La lettre fut rétablie si bien qu'il était impossible de croire qu'elle eût été ouverte. « Quelle nouvelle ! » s'écria le sec. « J'en saurai bien plus que Marguerite, ma foi. »« Ah, ça !» dit-il en regardant le valet. « J'espère que si monsieur le marquis de Raucourt vous récompense, vous ne m'oublierez pas. Gardez bien la lettre. » Et lorsque vous apprendrez quelque chose de nouveau, venez me le dire. » Jonio revint au château. Il affirma à sa maîtresse que monsieur Joseph venait de lire la lettre en sa présence, et, qu'en le chargeant de présenter à madame la marquise son respectueux hommage, il avait ajouté qu'il porterait la réponse lui-même. Le vicaire, attendu avec une impatience sans égale, ne vint pas. Madame de Raucourt, assise contre une des fenêtres de la façade qui donnait sur l'avenue, avait plus souvent les yeux sur la prairie que sur l'ouvrage qu'elle tenait pour avoir une contenance. Sur le soir, le bruit d'un équipage retentit dans l'avenue. La marquise, tremblante, regarde, et elle aperçoit la voiture de monsieur de Raucourt. Pour la première fois, son mari lui fut à charge. Un remords importun s'élevait dans son âme à mesure que la légère voiture volait vers le perron. Le cocher du marquis, ayant aperçu madame de Raucourt à la fenêtre du salon du rez-de-chaussée, avait donné un violent coup de fouet à ses chevaux pour arriver plus vite. Un homme, de 50 et quelques années, mais encore jeune de tournure et de figure, s'élance légèrement hors de son élégante voiture et monte rapidement le perron en boutonnant son frac bleu, décoré des rubans de plusieurs ordres. Surpris de ne pas trouver sa femme dans le vestibule, il ouvrit la porte de l'antichambre, et, n'y voyant pas madame de Raucourt, il crut qu'elle était indisposée. Il courut au salon, et alors il aperçut la marquise qui s'était levée lentement et qui s'était avancée presque la moitié de l'appartement. « On voit, » dit-il avec un léger sourire, « que vous ne m'attendiez pas, ma belle. » « Non, certes, » répondit froidement Joséphine, qui pensait encore au vicaire. À ce mot, le marquis regarda sa femme avec surprise et se mit à examiner la toilette recherchée qui l'embellissait. Croyant que c'était un jeu concerté, il repartit. « Joséphine, un pressentiment vous avertissait sans doute de mon arrivée, car vous êtes mise avec une élégance, une coquetterie, qui prouve que vous jouez fort bien l'étonnement. À merveille !»« Ah !» s'écria la marquise en revenant à elle. « Je vois que c'est assez plaisanté. et elle embrassa M. de Raucourt, en croyant mettre à ce baiser toute la grâce et tout l'abandon d'autrefois. Mais ce fut un baiser conjugal dans toute la force du terme. Et le marquis, tout en rendant à sa femme cette froide caresse, ne put s'empêcher de penser qu'il était arrivé quelque chose à celle qu'il aimait. Il s'ensuivit donc un moment de silence que Madame de Raucourt ne put interrompre. « Eh bien, cher ami, s'écria M. de Raucourt, depuis notre mariage, voici, je crois, la première entrevue qui se passe sans que je me voie accablé de questions. Mais, monsieur le marquis, je ne sais à qui de nous deux ce reproche doit s'adresser. Votre réserve seule me rend silencieuse. Vous avez l'air rêveur, et vos regards ne cherchent pas les miens. C'est aussi ce que je pourrais vous dire. Ah, Joséphine, tourne les yeux vers moi, et tu liras combien je suis ravie de te voir. J'ai brusqué toutes mes affaires à Paris. J'ai quitté la chambre avant la fin de la session pour te surprendre. Mais toi, as-tu songé quelquefois à moi? M'as-tu souhaité? Comment as-tu passé le temps ici? Qu'y a-t-il de nouveau à Aunay? Dis! » En achevant ces mots, le marquis s'approchant de sa femme, lui prit le bras et baisa sa main avec ardeur. « Monsieur, je suis enchanté de vous revoir, mais j'aurais désiré qu'un mot de votre chère main eût prévenu votre Joséphine, que ce n'eût été que pour la mettre à l'abri du reproche que vous lui faites. Alors, car je vois que j'ai manqué à voler sur le perron, alors vous m'auriez trouvé en calèche sur la route, vous attendant avec une anxiété sans égale. Enfin, je ne sais pas si, pour vous convaincre de ma tendresse, car il est de mode d'en douter à ce qu'il paraît, je n'eusse pas été jusqu'à A. Vous n'eussiez fait qu'une chose très ordinaire, répliqua vivement le marquis, piqué de l'ironie que Joséphine mettait dans la manière dont elle prononça ce qu'elle venait de dire. Une autre fois, reprit-elle, j'irai jusqu'à Septinan. Alors, trouverez-vous que 25 lieues soient assez? Si cela ne suffisait pas, j'irai jusqu'à Meaux. On ne saurait trop aimer qui nous aime, murmura le marquis. Vous reprocheriez-vous l'amour que vous avez pour moi? Repartit vivement la marquise. J'ai tort, madame, j'ai tort, dit le marquis avec un dépit concentré et en tourmentant ses gants avec violence. Non, monsieur, non, c'est moi. Je devrais sans cesse me souvenir que je fus mademoiselle de Vaucelles et que vous étiez monsieur le marquis de Raucourt, qu'alors mon devoir est de ne voir en vous qu'un bienfaiteur, qu'un maître. Ah, Joséphine, Joséphine, s'écria monsieur de Raucourt avec l'expression d'une douleur profonde. À cet accent, madame de Raucourt, revenant à sa bonté naturelle, eut un mouvement de honte et de repentir. Elle se jeta dans les bras de son époux. Puis, avec cette dissimulation innée chez les femmes, elle l'embrassa avec une effusion qui ressemblait à celle de l'amour, et dit en riant « Conviens, mon ami, que ces petits orages sont nécessaires pour sentir le bonheur en ménage !» Qui ne serait pas trompé par de pareils stratagèmes? Monsieur de Raucourt s'excusa et reçut son pardon. Cependant, il lui resta quelques soupçons, et cette sorte d'aigreur que laisse un désappointement. Madame de Raucourt lui raconta la mort de Laurette, et certes n'oublia pas le vicaire. En parlant de Joseph, la marquise semblait marcher sur des charbons ardents. Monsieur de Raucourt, en s'apercevant que sa femme craignait autant de parler que de se taire, la pressait, et un vague sentiment envahissait son âme à mesure que l'expression de la marquise devenait plus passionnée lorsqu'elle détaillait les perfections du jeune homme. « Il est sans doute venu au château ? » demanda-t-il. « Assez souvent !» Comme la marquise répondait, M. de Raucourt avait les yeux fixés sur Joniot. Il vit sur les lèvres du domestique errer ce sourire de pitié, d'ironie, qui avait si fort ému le vicaire. Il produisit un effet terrible sur le marquis. Il ne dit plus rien, se contenta de regarder sa femme d'un œil scrutateur, en paraissant chercher à lire dans son âme. Jonio contemplait son maître avec une curiosité intéressée. Il tâchait de deviner si M. de Raucourt serait assez jaloux pour payer généreusement celui qui l'éclairerait. « Ma chère, » dit enfin le marquis, « songez que si je reviens sur ce sujet, je n'y mets aucune intention sérieuse. Mais convenez que vous avez eu un motif pour ne pas aller au-devant de moi, car vous ne pouvez pas ne pas avoir aperçu ma voiture. » Pour user de votre langage parlementaire, répondit Madame de Raucourt en riant, je commence par vous nier le droit de me faire cette question. Mais je veux bien vous ôter de l'esprit votre inquiétude. Quoiqu'en femme sage, je dusse peut-être vous la laisser. Eh bien, vassal, votre souveraine vous avoue que lorsque vous êtes entrée, elle était tout entière occupée des moyens d'obtenir la grâce d'un malheureux bûcheron que l'on vient de condamner à 6 mois de prison, et dont l'absence va laisser toute une famille dans la misère. Je pensais à ce que je devais vous écrire à ce sujet à Paris, et je méditais aussi d'envoyer notre jeune vicaire porter des secours à ces malheureux. Ce jeune vicaire vous occupe beaucoup. Beaucoup, cher vassal, et je m'en occuperai encore bien davantage si je m'aperçois qu'il vous rend jaloux. Parce qu'alors nous reviendrons au temps délicieux de nos premières amours. » Le ton, l'accent, l'ironie, la coquetterie fine que Madame de Raucourt déploya dans cette réponse firent évanouir les soupçons du marquis. Cependant, il ne put se défendre d'une prévention défavorable au vicaire, et il ne fallait pas grand-chose pour que cette prévention se changeât en haine. Par un hasard extraordinaire, Monsieur Joseph se rendit le même soir au château, et, comme il ne vit Madame de Raucourt qu'en présence de son mari, cette dernière ne put savoir si la visite du vicaire était, ou non, une réponse à son billet du matin. Le jeune vicaire, en trouvant Monsieur de Raucourt, se comporta envers lui selon son habitude. Il fut sévère, réservé, froid, et donna libre carrière à ce dédain, ce mépris qu'il affectait pour les hommes. Il écrasa, en quelque sorte, M. de Raucourt, qui ne s'imaginait pas rencontrer dans un vicaire de campagne les manières et le ton de la plus haute classe de la société. Le marquis, blessé de la supériorité qu'il reconnaissait tacitement à M. Joseph, conçut de la haine pour ce personnage, et il eut le singulier soupçon que la soutane du vicaire cachait un amant d'une haute distinction. Il surprit quelques regards de sa femme, qui le confirmèrent dans cette opinion, ainsi que la politesse affectée de M. Joseph envers Madame de Raucourt. Le jeune homme revint pendant quelques jours au château, et ses visites n'étaient pas de nature à faire changer M. de Raucourt d'opinion. Il fut rêveur, brusque, et se mit à étudier sa femme avec le soin et l'attention de la jalousie. On concevra facilement ce sentiment chez M. de Raucourt. En effet, un homme constamment heureux depuis nombre d'années, se croyant aimé d'amour de sa femme et ayant tout trouvé auprès d'elle, doit être fortement attaqué lorsqu'en arrivant à l'âge où l'on désire le plus une compagne véritablement fidèle, il voit tout son bonheur s'évanouir comme un rêve. Cependant, la marquise semblait encore plus hardie depuis que la présence de M. de Raucourt rendait sa position plus dangereuse, et sa passion, irritée de ce péril, s'éleva au-dessus de toute réserve. Un jour, la marquise se dirigea vers le pavillon de Marie. Elle monte et arrive à cette chambre où elle avait vu le vicaire pour la première fois. « Marie, dit-elle, je me défie de tout le monde. Cours chez le curé. Et prévient Monsieur Joseph que la famille de Jacques Cachel, le bûcheron, meurt de faim, qu'il s'y rende demain. Mais nourrice, ne lui dis pas que j'y serai. » La nourrice s'acquitta fidèlement de cette commission. Le vicaire promit que le lendemain, après le dîner, il se rendrait dans la forêt, chez Jacques Cachel. Et Marie instruisit Madame de Raucourt de l'heure à laquelle le vicaire serait au milieu de cette malheureuse famille. Chapitre 17. La chaumière de Jacques Cachel était située sur le penchant de l'une des collines qui environnaient Aunay-le-Vicomte. Alors une pauvre femme, assez belle, l'habitait et avait pour compagnie trois petits-enfants, la misère et la faim. Cette mère désolée pleurait sur les maux de ses fils, sur la douleur de son mari, avant de songer à son propre malheur. Excédée de fatigue, elle gémissait de voir que son travail ne lui procurait pas un salaire suffisant pour les besoins de sa petite famille. Tout à coup, elle tourne ses regards vers le trou qui sert de fenêtre et elle s'applaudit de voir les rayons du soleil disposer les magiques tableaux du couchant et d'un couchant d'automne, car elle pense que pendant la nuit, ses enfants ne se plaindront pas de la faim et que le sommeil va leur enlever le souvenir de leurs maux. Son regard attristé n'est pas celui d'un infortuné qui ne tremble que pour lui. C'est le regard d'une mère qui pleure pour les siens. Elle pleure, quoiqu'elle sache que ses larmes sont inutiles. Elle pleure. La pauvre Madeleine contemple les richesses du vallon et demande au ciel « Pourquoi tant d'inégalités dans la distribution des biens ?»« Ah » dit-elle, « si j'étais riche, je ferais des heureux. » À cette exclamation qui lui échappe, répond le bruit d'un pas léger. Les enfants sortent et rentrent subitement avec la crainte et la surprise peintes sur leur visage flétri par le besoin. Madeleine regarde et la marquise paraît. « Eh bien, ma pauvre enfant, vous êtes malheureuse et vous ne m'en instruisez pas. » Madeleine, interdite, se jette aux genoux de la marquise et lui baise les mains. « Allons, ma fille, relevez-vous. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne fais que ce que je dois. » La paysanne essaya de parler pour exprimer sa reconnaissance, mais les paroles lui manquèrent, et la pauvre femme ne savait pas qu'elle ne devait rien à Madame de Raucourt. Que s'il n'eût pas existé un vicaire, la marquise l'eût à la vérité secourue, mais que jamais elle n'eût meurtri ses pieds blancs et délicats sur les cailloux de la forêt. Ayons la consolation de croire que les passions humaines peuvent quelquefois produire du bien à travers leurs maux. « Tenez, Madeleine, » dit Madame de Raucourt en s'asseyant, « voici des bons sur le boucher du village. Il vous donnera la viande dont vous aurez besoin. En voici de semblables sur le boulanger. Quant à de l'argent, adressez-vous à Marie au château. Elle vous remettra du chanvre affilé, et l'on vous paiera bien si vous travaillez. » Heureux, mille fois heureux, celui qui, sans témoin, a recueilli dans une chaumière cette larme qui coule sur la joue du malheureux qu'il soulage. Ce beau discours que prononce la reconnaissance par un seul regard et par cette seule larme. La marquise caresse les petits-enfants avec cette affabilité qui double le prix d'un bienfait. Elle regarde la chaumière ruinée et ne conçoit pas que des êtres humains puissent habiter cette masure. « Il le faut bien !» répond Madeleine. À cette humble réponse, la marquise se promet en elle-même de faire la surprise à cette pauvre femme, de réparer sa chaumière pendant qu'elle en sera absente. À ce moment, la marquise tressaille, car elle entend le pas rapide d'un homme. Et longtemps avant que Madeleine le distingue, Joséphine a reconnu la marche du vicaire. Il se baisse pour entrer sous ce chaume, et Madame de Raucourt le salue par un regard de feu. Sa passion avait thésaurisé ses forces pour les déployer dans ce moment. À cette minute, la marquise décréta qu'elle dirait au jeune homme « Je t'aime », car elle atteignait ce degré de désir où tout devient indifférent. Elle arrivait à ce sommet si élevé que l'on n'aperçoit plus ni les lois, ni les temps, ni la terre, enfin où l'on est seul avec celui que l'on aime, où tout a disparu, excepté soi et lui. « Je vous ai devancé, » dit-elle en souriant au jeune prêtre étonné. « Alors, vous ne m'avez laissé rien à faire ?» répondit-il en rougissant sous les regards enflammés de la pauvre marquise. « Voyons, » reprit-elle, « j'ai donné du pain et de l'ouvrage. Qu'apportez-vous ? » « L'espoir, » répondit-il. « Oui, ma pauvre Madeleine, vous reverrez bientôt votre mari. Je viens d'écrire à mon seigneur et je crois que l'on assoupira l'affaire de Cachel. une autre fois qu'il soit plus prudent, car il n'y aurait pas de protection s'il récidivait. Envoyez vos enfants à l'école. Je me charge du paiement de cette dette-là. » Pauvre femme, comme elle a souffert. Quel grabat! « Envoyez chercher du linge au château !» s'écria vivement madame de Raucourt. Après quelques instants, pendant lesquels le vicaire donna de douces consolations à Madeleine, il sortit avec l'amoureuse Joséphine. La pauvre paysanne les suivit longtemps de ses yeux humides, et en rentrant, elle embrassa ses enfants avec un plaisir pur, sans crainte, en donnant essor à toute sa tendresse. La marquise marchait à côté du prêtre. Elle le regardait par instants, et elle jouissait de l'admiration du jeune homme, qui contemplait la beauté pittoresque d'un horizon coloré des feux bizarres du couchant. L'azur, le vert pâle, le rouge ponceau, se mariaient aux teintes inimitables de la flamme, de l'argent, de l'or, et le ciel ressemblait à un de ces trésors de pierres précieuses dont parlent les contes orientaux. Ces pierreries célestes jetaient leur feu sur tous les objets de la vallée, et chaque arbre, chaque toit, reflétait les teintes variées du couchant. Les brins d'herbe étincelaient comme des diamants, les troncs des arbres paraissaient de bronze, les toits de chaume se coloraient d'un brun rougeâtre. Le silence qui régnait entre la marquise et le jeune homme ne fut interrompu que par les sons de la cloche du village, qui redoubla leur mélancolie. Alors, un bruit soudain, un mouvement rapide, eussent détruit le charme de ce spectacle. La marquise crut avoir trouvé le moment favorable, et pensa que le vicaire, attendri par de si douces impressions, s'abandonnerait sans résistance au charme de se sentir aimé. La marquise n'avait pu choisir un plus bel exorde. « Quel spectacle ! » s'écria-t-elle. « Comme il élève l'âme ! Il inspire l'amour du ciel et détache de la terre ! Il partage cette puissance avec la plus noble de nos passions !» « Ah oui ! » s'écria de son côté le vicaire en saisissant la main de madame de Raucourt. « Vous répondez à mes plus intimes pensées !» Une joie divine s'éleva dans l'âme de la marquise quand elle entendit ces mots, qui s'appliquaient aux événements de la vie passée de Joseph. Madame de Raucourt les interpréta en sa faveur. « Mon ami, continua-t-elle, malgré l'abord froid, la contenance sévère et les manières sauvages que vous affectez, un instinct secret m'a toujours dit que votre âme est accessible aux impressions les plus tendres et les plus vives, qu'enfin vous comprenez l'amour. « Mille fois trop !» dit le vicaire avec une sombre énergie qui charma Joséphine. « Vous devez savoir excuser avec grandeur d'âme les écarts dans lesquels nous jette cette passion indomptée. Vous usez de cette indulgence si rare envers les victimes, vous les plaignez. Il n'est, je gage, jamais venu dans votre noble esprit de repousser froidement ou avec horreur l'aveu d'une infortune d'amour. » Joseph ne répondit qu'en levant les yeux vers le ciel. « Alors, reprit la marquise presque confuse de son bonheur, « vous ne repousserez jamais de votre sein l'être qui s'y réfugiera. » À ces mots, prononcés avec un accent inexprimable, le vicaire contempla la figure de la marquise, et malgré lui, fut forcé d'admirer l'expression sublime dont l'amour faisait briller son visage. Joséphine, profitant de son silence, reprit. « Vous souvient-il que jadis les Athéniens condamnèrent à mort un enfant qui tua l'oiseau qui avait cherché un asile sur son cœur ?» Le vicaire pencha la tête en regardant toujours la marquise. Elle crut être entendue. « Eh bien, mon ami, si devant vous se présentait une femme et qu'elle vous dit « Oh, Joseph, je n'ai pu oublier la fierté de ton regard, je t'aime !» Le peu de route que nous avons fait ensemble sur ce chemin que l'on nomme la vie m'a fait désirer de le parcourir tout entier avec toi. Regarde-moi donc, puisque je suis folle de ton rare sourire. N'as-tu donc pas un mot à me dire? Eh bien, Joseph, que diriez-vous? À ces mots, le vicaire recula de 3 pas, et resta plongée dans un étonnement profond. « Oui !» continua la marquise. « Sachez que j'ai compté sur votre cœur. Ah, mon jeune ami, rougissez pour nous deux, car la violence de ma fatale passion m'ôte, vous le voyez, toute retenue. Je suis indigne du jour. Mais apprenez au moins tout ce que je souffre. Oui, depuis le moment où je vous ai vu, j'ai senti que le sort m'avait donné à vous. Je vous appartiens à jamais, malgré moi. Depuis ce moment, une fièvre m'a saisie et me dévore. Je ne vois et ne désire que vous. Je suis aussi malheureuse que créature puisse l'être. Et tout à l'heure, j'enviais le destin de la paysanne que nous venons de secourir. Maintenant, je n'aurai à envier le malheur de personne. Le mien sera le plus grand de tous. Je conçois le crime, et rien ne me retient. Oh, Joseph !» Un déluge de larmes l'interrompit. Le vicaire, effrayé, précipita ses pas vers le village, mais madame de Raucourt lui cria au milieu de ses sanglots « Joseph, vous me fuyez? Vous me méprisez? Ah, ne détournez pas ainsi la tête! Regardez-moi encore! Ce sera pour la dernière fois !»« Madame, songez-vous à ce que vous faites? Un crime ?»«
Dieu, quelle punition! Le dédain de celui qu'on adore! Cruel, tu n'as donc pas aimé ?»
Le vicaire s'arrêta, car le souvenir de tous ces mots le toucha.
« Au nom de celle que tu chéris, laisse-moi te dire adieu !»
s'écria madame de Raucourt avec une énergie terrible.
« Grâce, grâce pour celle qui aime ! Un regard et je serai contente !»«
Madame, songez à votre nom, il vous dira tout !» En prononçant ces mots, le vicaire lança à la pauvre marquise un regard qu'il s'efforçait en vain d'adoucir, mais dans lequel la marquise lut son arrêt.
« Grand Dieu, c'est ma mort !»
Et madame de Raucourt tomba sur un tertre de gazon. Le vicaire était déjà bien loin. Néanmoins, n'entendant plus rien, il se retourna et aperçut, à la lueur du crépuscule, la marquise étendue sur la terre. Il accourut, la sueur froide de la peur le saisit à cet aspect. Il relève cette femme en lui prodiguant les plus doux noms. Il s'accuse, il la presse contre son cœur. Tout à coup, le bruit d'un équipage retentit, et bientôt la calèche de M. de Raucourt et M. de Raucourt lui-même sont à côté de la marquise. Joséphine est transportée dans la voiture avant qu'elle ait repris ses sens, et le marquis, en montant à côté de sa femme, saisit violemment la main de M. Joseph et lui dit « Monsieur, nous éclaircirons cette affaire. Ne comptez pas m'échapper. » Le vicaire est resté seul à l'endroit où la marquise lui a fait l'aveu de sa passion. Il regarde machinalement le paysage, le ciel et cette voiture qui s'enfuit. Après un moment de rêverie, il revint à pas lents au presbytère en réfléchissant à la bizarrerie de cette aventure. Sa candeur était telle qu'il plaignit la marquise de ressentir tous les maux qu'il avait éprouvés lui-même. « Ah ! S'écria-t-il en voyant le portrait de Mélanie. « Elle est doublement malheureuse, car jamais son amour ne sera partagé. » Cette scène fut, comme on doit le deviner, le sujet des conversations de tout le village. Marguerite défendit le vicaire et fut seule à prétendre que le jeune homme avait rebuté madame de Raucourt. En agissant ainsi, Marguerite n'était pas poussée par l'intérêt de M. Joseph, non. Elle avait éprouvé la rigueur du vicaire. Elle eût été au désespoir qu'une autre que Mélanie fît chanceler l'impassible ecclésiastique. Quant au bon curé, lorsque sa gouvernante lui raconta cette aventure singulière, « Chacun est fils de ses œuvres, » répondit-il en faisant craquer les feuillets de son bréviaire. Lorsque la marquise arriva au château, on fut obligé de la mettre au lit sur le champ. Et elle ne se réveilla de son long évanouissement que pour tomber dans un effroyable délire. « Et quoi ? » disait-elle à son mari. « Tu me dédaignes ? Ah, quand tu m'aimerais toute une éternité, quand tu me prodiguerais les plus tendres caresses, quand je serais enfin au comble du bonheur, je ne pourrais oublier ton regard.
Tu sais ?
Ce regard. Puis, se levant sur son séant et roulant des yeux égarés, elle saisissait le bras de Marie en criant
« Mon fils, que je revoie mon fils, et je mourrai heureuse. J'ai beaucoup aimé mon mari, » reprenait-elle avec un sourire. « Oh oui, je l'aime encore, d'amitié. D'amour, dites-vous ? Non, non. Joseph, Joseph, adieu !»
Monsieur de Raucourt, assis sur une chaise au pied du lit de sa femme, restait plongé dans un morne désespoir. Il avait dépêché un exprès à A et un autre à Paris. À peine osait-il jeter les yeux sur celle qu'il se reprochait d'aimer encore. Une horrible fièvre s'empara de Madame de Raucourt, et lorsque les accès cessèrent, elle devint la proie d'un tel accablement que l'on doutait qu'elle vécût. Quand, les yeux fermés et le visage pâle, elle penchait sa belle tête décolorée. Le marquis passait toutes les nuits et le jour auprès du lit de sa femme, incapable de faire un seul mouvement, d'avoir une seule idée qui n'eût pas pour objet la malade chérie. Enfin, le médecin de Paris arriva. Il suivit Madame de Raucourt pendant plusieurs jours et déclara que lorsque la fièvre et la maladie momentanée auraient cessé, la marquise resterait en langueur, que sa raison avait reçu une trop forte secousse et que le moindre malheur qui pût en résulter serait une mélancolie dont rien ne la guérirait. Qu'enfin, si cette secousse violente, si cette mélancolie avait pour cause un chagrin ou une passion, elle ne disparaîtrait que par une complète satisfaction. Comme il était impossible au marquis de douter de l'amitié que le médecin avait pour lui, cet arrêt le jeta dans la plus grande consternation. Il ne lui restait plus qu'à chercher quelle était la cause de l'état de la marquise, et par quel événement on l'avait trouvée presque morte à côté du vicaire, au milieu de la vallée donnée le vicomte. Il devait marcher de malheur en malheur. Un matin, Joséphine reposait, il espérait sa guérison prochaine à l'aspect de son visage, qui, pendant ce sommeil, paraissait revenir à la santé. Peut-être un songe dans lequel elle voyait le vicaire réjouissait-il son âme. Tout à coup, Jauniot entre, et s'approchant de son maître, demande à lui parler. Monsieur de Raucourt se lève, suit son domestique et s'arrête avec lui dans l'embrasure d'une des croisées du salon. « Monsieur, je crois vous avoir donné plus d'une preuve d'attachement depuis que je suis à votre service. »« Qu'est-ce que cela veut dire ? Aurais-tu quelque querelle avec un de tes camarades ?»«
Non, monsieur, mais j'ai entendu parler de ce que le médecin avait prononcé sur l'état de Madame la marquise. »«
Eh bien ?»
Monsieur, songez, je vous en supplie, qu'il faut vous être bien dévoué pour se soumettre volontairement à votre colère, en vous révélant un des secrets qu'on aime le moins à apprendre. Car je n'ignore pas que notre devoir est de tout voir, de tout entendre, et aussi de tout oublier.
Jauniot, tu m'impatientes ! S'écria le marquis.
Monsieur, donnez-moi votre parole d'honneur, que si par suite des aveux que je vais vous faire, je vous deviens odieux. Quoique vous en reconnaissiez l'utilité, vous prendrez soin de mon existence en me plaçant dans quelque administration.
Ah, oh, ça, Jauniot, plaisantez-vous, je vous ordonne de parler.
Monsieur, je ne parlerai pas que vous ne m'ayez solennellement juré de prendre soin de moi. Car je sais que, bien que je vais vous dire la vérité, il arrivera un temps où l'on vous excitera contre moi, et qu'alors vous préférerez mon malheur à celui d'une personne chère.
« Je comprends de quoi il s'agit. Tu as un secret à me vendre. Je te l'achète, et tu auras tout ce que tu veux, » répondit le marquis. L'astucieux Jauniot déguisa le mouvement de sa joie, car Monsieur de Raucourt l'observait habilement. Alors il répondit ainsi. « Monsieur, le lendemain de son arrivée ici, Madame la marquise, » le marquis tressaillit, « vit Monsieur Joseph. » « Depuis ce temps, monsieur, elle n'a pensé qu'à lui. Depuis ce temps, ils n'ont cessé d'être ensemble, et tout le village est instruit de ce que vous seul ignorez. »«
Malheureux !» s'écria le marquis. « Oses-tu bien calomnier ainsi ?
Mais monsieur de Raucourt s'arrêta, parce qu'au fond de son cœur, une voix lui criait que Jauniot avait raison.
« Je m'attendais à cela, monsieur. Aussi, je ne suis pas arrivé devant vous sans m'être mis en mesure de vous fournir des preuves de ce que j'avance. »«
Des preuves ? » s'écria le marquis. « Il serait donc vrai ? Joséphine aime ce jeune homme, et elle meurt d'amour pour lui ?»«
Rien n'est plus vrai, monsieur. Et l'ambitieux vicaire se fait prier afin de parvenir à des dignités par le crédit de monsieur. »«
Et les preuves ? » s'écria brusquement monsieur de Raucourt.
« Monsieur, ce qui prouve combien je suis certain de ce que je vous dis, c'est que je vous présente une lettre dont j'ignore le contenu. Je ne me serais pas permis pour un million de décacheter une lettre d'un maître. Mais je gage ma tête, monsieur le marquis, que ce billet est un billet d'amour et qu'il indique un rendez-vous. »
Le marquis, ayant examiné le cachet, ouvrit avec rage ce fatal papier, le lut avec avidité. Une pâleur soudaine envahit son visage et il s'écria
« C'était le jour de mon arrivée !»«
Voilà la cause de la froideur de Joséphine !»«
Sors »
dit-il à Jauniot avec une sombre colère. Le marquis serra la lettre et rentra dans la chambre de sa femme. Le désespoir le plus affreux et une rage sourde s'emparaient de lui lorsqu'il regardait le doux visage de Joséphine. Que faire ? 1000 projets, aussitôt détruits que formés, se succédaient dans son esprit sans s'y arrêter. Madame de Raucourt s'éveilla.
« Je suis mieux !» s'écria-t-elle doucement. « Mon ami, pourquoi n'es-tu plus à mon chevet ? Je veux me lever. Ah, comme je désire aller dans le parc, au tertre qui se trouve en face des ruines du château !»«
Pourquoi ? » dit le marquis en s'approchant.
« Pour y mourir, car je sens que mes forces m'abandonnent. »«
Mais tu disais être mieux. »«
N'est-ce pas être mieux que de mourir quand on ne peut plus vivre que dans l'opprobre ?»«
Monsieur le marquis, » dit-elle d'un ton de voix suppliant et en lui prenant la main,
« n'imaginez jamais que je ne vous aime pas. Mais souvenez-vous qu'avant de mourir, je veux revoir le vicaire d'Aunay. »«
Je vais vous l'envoyer, madame. » s'écria le marquis avec un regard terrible. « Mais en le voyant, souvenez-vous aussi que ce sera pour la dernière fois. »«
Que voulez-vous dire, monsieur le marquis ? Il va le tuer, Frédéric !»
Le marquis, s'éloignant à grands pas, laissa sa femme se débattre dans d'horribles convulsions. Marie accourut et prodigua les soins les plus touchants à sa maîtresse. Au milieu de son délire et près de rendre le dernier soupir, la marquise jetait des cris perçants.
« Marie, je meurs ! Arrête-les ! Ah, si je le voyais !»
Ce dernier paroxysme avait tellement accablé l'infortunée marquise qu'elle touchait à sa fin. Penchée sur son oreiller, elle ne pouvait même plus parler. Et pour exprimer ses pensées, elle agitait faiblement les mains. La nourrice, versant un torrent de larmes, s'écriait
« Elle meurt comme Laurette, mes deux filles chéries, toutes deux, c'en est trop !»«
Encore, Marie !» dit la marquise avec une sombre fureur. « Si je voyais mon fils, la mort me serait douce. Oh, mon fils, je n'aurais pas tressailli à ton aspect, ne pas avoir joui d'un seul de tes sourires.
Ah, Marie, que de peine !» Le sujet des larmes secrètes de toute ma vie, mon fils, ma pensée de tous les instants, je mourrais sans le voir. Quelles sont heureuses les mères qui rendent le dernier soupir entourées de leurs enfants. Oh Dieu, tiens-moi compte de tout cela. »
Madame de Raucourt, épuisée de ce dernier effort, retomba comme morte.
« Il me semble voir Laurette !» dit alors la nourrice effrayée.
À ce nom, la marquise fait un dernier effort. Elle soulève sa paupière et cherche à faire un signe qu'elle envie le sort de Laurette. À ce moment, elle jette un faible cri. Le vicaire est à la porte. Il est arrivé doucement et il regarde avec douleur le visage flétri de la mourante. « Madame, dit-il en s'approchant du chevet funèbre, monsieur le marquis lui-même m'envoie. Madame de Raucourt, pour toute réponse, saisit de sa main brûlante la main du vicaire, et par un geste délirant, elle la porte à ses lèvres et y dépose un baiser. « Hélas, dit-elle, je suis entourée d'anges. Moi seule suis indigne. Vous me faites aimer mon mari encore plus que je ne l'aimais. » ajouta-t-elle faiblement. « Il est parti, répondit le vicaire, et il est venu me supplier d'aller vous voir. » « Être grand et généreux !» s'écria madame de Raucourt. « Tout cela, mon ami, dit-elle, m'ordonne de mourir !» En achevant ces mots, une joie toute divine brillait sur son visage. Elle regardait monsieur Joseph avec d'autant plus de volupté que, si près de la tombe, elle se croyait tout permis. Le vicaire prodigua à madame de Raucourt les consolations les plus tendres. En entendant cette voix chérie, Joséphine sentait ses douleurs se calmer. Et le mieux sensible qu'elle éprouvait par la présence de M. Joseph engagea ce dernier à venir assidûment au château pour tâcher de rétablir la santé de cet infortuné. Chapitre 18. Le marquis de Raucourt, en proie à la plus profonde douleur, se dirigeait vers la route d'A. Après avoir longtemps médité sur le malheur qui l'accablait, il venait de prendre un parti raisonnable. C'était de laisser le vicaire procurer par sa présence quelque soulagement à la maladie de sa femme. Et il avait en même temps ordonné à Jauniot de bien surveiller leurs entretiens et de s'assurer jusqu'à quel point leur intimité était arrivée. Lui, pendant ce temps, allait à A. Il sollicitait de l'évêque un ordre subit et péremptoire, par lequel le vicaire serait forcé de quitter sur le champ Onet-le-Vicomte. Alors, il emmenait de son côté la marquise à Paris, en espérant que la dissipation achèverait la guérison que le vicaire aurait commencée. « Certes, se disait-il en chemin, je n'en puis vouloir au fond de mon âme à la pauvre Joséphine. Les passions naissent involontairement chez nous. Et la maladie de madame de Raucourt, les discours qu'elle tient dans ses accès de délire, prouvent qu'elle combat sa passion. Je ne puis que la plaindre, gémir sur mon sort et sur le sien. Sa mort est pour moi le plus grand des maux, je dois donc tout sacrifier pour lui faire recouvrer la santé. » Aussitôt qu'il fut arrivé à A, il se dirigea vers l'évêché. Sa voiture entra dans la cour, et la paille sur laquelle elle roule indiqua à M. de Raucourt que M. de Saint-André devait être bien mal. En effet, on refusa au marquis l'entrée de la chambre de l'évêque. Alors M. de Raucourt s'adressa au secrétaire de Monseigneur. « Monsieur, dit le marquis à un jeune abbé, vous devez connaître M. Joseph, vicaire de Mater d'Onet-le-Vicomte. « Oui, monsieur le marquis, est-ce que vous auriez à vous en plaindre ?»« Au contraire !» s'écria le marquis. « Je m'intéresse tellement à lui que je venais prier Monseigneur de lui trouver quelque place plus proportionnée à son mérite. »« Il ne la prendrait pas, » répondit le secrétaire en donnant une chiquenaude à une barbe de plume qui se trouvait sur sa manche. « Vous m'étonnez, » dit Monsieur de Raucourt stupéfait. « Il est donc venu à Onet... »« De lui-même, » interrompit le secrétaire. Il a supplié Monseigneur de l'envoyer là.
« Et quel est donc ce personnage ?»
demanda le marquis surpris. « Monseigneur seul le sait, » répartit le jeune abbé avec un air de mystère qui fit trembler M. de Raucourt. «
Quand je devrais le faire nommer cardinal, » s'écria-t-il avec dépit, « il sortira d'Onet. »
« Je ne crois pas, » dit finement le secrétaire. Et si votre seigneurie veut faire quelqu'un cardinal, qu'elle s'adresse à un autre qui ne la refusera pas.
« Monsieur, reprit le marquis, comme je ne suis pas un héritier de monsieur de Saint-André, que je ne dérangerai en rien ses dispositions testamentaires, pourriez-vous m'introduire auprès de lui ?»«
Très volontiers, dit le jeune prêtre en courbant sa moelle épinière devant le pair de France, ami intime du président du Conseil des ministres. Il guida le marquis de Raucourt par un escalier secret en lui recommandant de ne pas faire de bruit. Monsieur de Raucourt entendit résonner la voix du prélat, et ses paroles parvinrent à son oreille. « J'institue Monsieur Joseph, vicaire d'Aunay, mon légataire uni. » À ce mot, Monsieur de Saint-André s'arrêta en prêtant l'oreille, au bruit des pas de ceux qui montaient par son escalier. Le marquis, frappant trois coups à la porte, entra sans attendre que l'évêque répondît. Monsieur de Raucourt trouva le prélat couché sur une chaise longue, auprès de la seule fenêtre dont les persiennes fussent ouvertes, de façon que le jour donnant sur lui, tout d'abord, faisait disparaître la teinte blanchâtre de sa figure sévère. L'appartement annonçait par sa noble simplicité le caractère de celui qui l'habitait. « Monseigneur, dit le marquis, je vous supplie de m'accorder un instant d'audience, à charge de vous en rendre l'équivalent, à Paris, à votre ordre. » Le prélat sourit légèrement, et après avoir fait signe au notaire de se retirer, il indiqua au marquis un fauteuil qui se trouvait près de sa chaise longue. « Mon fils, dit monsieur de Saint-André, si quelque péché vous amène à nous, je vous conseille d'aller mettre le verrou à la première porte de l'escalier, par la raison que mon secrétaire, ayant méconnu mes ordres une fois, pourrait y contrevenir une seconde. » Pendant que monsieur de Raucourt courut fermer la porte, l'évêque sonna et ordonna à un de ses gens de faire retirer tout le monde des appartements voisins. Puis il jeta sur ses jambes un couvre-pied de soie violette et, secouant de dessus sa soutane le peu de tabac qui s'y trouvait, il se tourna vers monsieur de Raucourt en poussant un soupir arraché par ses souffrances. Alors il regarda un grand crucifix placé sur la muraille en face de lui, et confiant sa tête chenue à sa main droite, il dit au marquis « Parlez !» Comme le marquis ouvrait la bouche pour répondre, le prélat, dégageant sa main avec une vivacité qui contrastait avec l'espèce de solennité de ses mouvements, posa sa main droite sur le bras du marquis en lui demandant avec une visible émotion « Et comment va madame de Raucourt ?»« Hélas, répondit le marquis en soupirant, elle est à la mort. »« À la mort ? » s'écria l'évêque en se mettant brusquement sur son séant. « Et je n'en ai rien su ?»« Il est vrai, ajouta-t-il, que depuis 6 mois je suis perclus. »« C'est au sujet de madame de Raucourt que je viens vous voir, » dit le marquis. À ces mots, l'évêque changea de couleur et regarda monsieur de Raucourt avec une vive anxiété. Il remua même sa jambe paralysée sans seulement s'en apercevoir. « Que voulez-vous dire ? » s'écria-t-il. « Expliquez-vous. »« Monsieur, reprit le marquis, il y a un mois, j'étais l'homme de France le plus heureux, riche, bien vu du roi, ayant autant de pouvoir qu'un homme sage peut en désirer, bien portant, enfin, me reposant sur le sein d'une femme dont tous les regards étaient pour moi, passant ma vie avec un ange de vertu. « Oh oui !» interrompit le prélat. « C'est le modèle des femmes vertueuses, et un an de sa vie de femme effacerait 1000 fautes. » L'évêque, en parlant ainsi, levait les yeux au ciel, et son visage semblait rajeunir. « Eh bien !» reprit monsieur de Raucourt d'une voix altérée. Tout mon bonheur s'est brisé devant un homme, et cet homme est notre vicaire. « Joseph ? » s'écria le prélat avec effroi. « Oui, monseigneur, madame de Raucourt meurt d'amour pour lui. » L'évêque s'est levé. Il parcourt sa chambre en proie à une agitation cruelle. « Oh, mon Dieu ! » s'écrie-t-il. « Dieu de paix !» Puis, se croisant les bras, il regarda fixement le crucifix et lui dit « Dieu tout-puissant, donne-moi la force, donne-la-moi » Enfin, après un long silence, il se retourna vers le marquis stupéfait et lui dit « Que me demandez-vous? Pourquoi venez-vous ici me torturer? Pourquoi me choisir pour confident de cette peine? Que voulez-vous » « Monseigneur, répondit le marquis, je venais vous prier de placer autre part ce jeune prêtre, afin que madame de Raucourt puisse l'oublier et recouvrer la santé. « Il est des choses écrites dans le ciel. s'écria lentement le prélat. « Et c'est folie que de vouloir arrêter le cours des volontés de Dieu. »«
Que dites-vous ? » reprit M. de Raucourt. « Vous connaissez ce prêtre ?»«
Si je le connais !» répéta avec énergie le prélat.
« Quel est-il ? »
demanda le marquis en se plaçant devant M. de Saint-André.
« Il faut que Dieu même l'ignore !»
répondit gravement l'évêque en levant un doigt vers le ciel.
« Parbleu, je le saurai !»
dit M. de Raucourt d'un ton despotique. « Ce secret, monseigneur, peut-être vaudrait-il mieux me l'apprendre que me le laisser deviner. »
« Mon fils, » répondit doucement le prélat, « instruisez-moi de la vie de cet homme, et je vous promets le chapeau. »«
Monsieur, » dit froidement l'évêque, « je suis près de la tombe, les honneurs ne me touchent plus. »«
Le pouvoir, » ajouta-t-il ironiquement, « ne peut plus m'atteindre, et tout ce qui me touche maintenant, c'est le salut de mon âme, c'est d'obtenir le pardon d'une faute éternelle. La terre ne m'occupe plus. »
« Ainsi, vous me refusez tout ?» dit M. de Raucourt d'un air piqué.
« Retournez vers Mme de Raucourt, » répondit doucement le prélat. « Annoncez-lui ma visite. Je me traînerai jusqu'à votre château. Je vivrai jusque-là. Et ma présence rétablira la paix chez vous. »
« Vous en chasserez donc le vicaire ?»«
Au contraire !» s'écria le prélat d'une voix forte. « Écoutez-moi, mon fils, les paroles des vieillards sont plus sages qu'on ne le pense. Avez-vous songé quelquefois que vous n'aviez pas d'héritier, que votre nom meurt avec vous ?»
M. de Raucourt poussa un profond soupir et leva les yeux au ciel.
« Pensez-vous aussi que la faveur dont vous jouissez peut s'évanouir d'un moment à l'autre, et que depuis longtemps vous auriez dû en profiter pour ne pas laisser mourir votre péri avec vous ?»
Le ton que le prélat mettait à ses paroles, son regard profond, dénotait une ambition, un désir, annonçait des projets vagues. L'attitude de ce vieillard frappa M. de Raucourt de manière à ce qu'il en gardât un long souvenir.
« Mais que voulez-vous dire ? » demanda-t-il avec l'accent de l'inquiétude.
« En voilà assez pour aujourd'hui, » reprit l'évêque. « Je suis fatigué. » Et je vous reverrai bientôt. »
Là-dessus, lui donnant sa bénédiction, il ouvrit lui-même la porte au marquis, qui sortit machinalement, et en proie à une rêverie causée par les derniers mots du prélat. M. de Raucourt remonta dans sa voiture et regagna son château. Il courut à l'appartement de sa femme avec un empressement qui prouvait combien il l'aimait. Il eut un vif mouvement de joie en apercevant Joséphine levée. Elle était assise sur un sofa, mais son œil terne, son attitude mélancolique, annonçaient qu'elle brûlait toujours. Monsieur de Raucourt ne put s'empêcher de frémir en pensant que ce triste mieux était dû aux soins de son rival. La marquise se leva avec peine, marcha lentement vers son mari, lui jeta ses faibles bras autour du cou et l'embrassa avec joie.
« Mon ami, » dit-elle, « sans Monsieur Joseph, tu ne m'aurais jamais revue. »
Le marquis dissimula la douleur que cette naïve parole lui causa. Il regarda Joséphine avec une compassion touchante, et lorsqu'ils furent assis l'un à côté de l'autre, « Ma chère belle, » dit-il, « l'évêque d'A, Monsieur de Saint-André, viendra te voir très incessamment. »
« C'est un de ceux que je dois revoir avant de mourir. »